La seule musique qui l'emporte sur celle du moteur, c'est celle de la radio.
Focus 80.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars.
Radio Campus.
C'est quand même qu'il y ait une intensité, qu'on sente qu'il y a du vécu, qu'on n'ait pas l'impression que c'est un tableau et...
Si pour vivre, il faut s'écraser face à des bâtards dans ton genre, je préfère mourir droit dans mes sandalettes et la tête haute.
Nous y voilà. Tu vas devoir me tuer comme tu me l'as promis.
Très bien. Je vais aller chercher toutes les boules de cristal et quand je les aurai, je rendrai la vie à ton père.
Regarde bien. Voici ce qui arrive à celui qui brave l'interdit. À celui qui veut ressusciter les morts.
Mais c'est pas vrai, c'est un cauchemar, mais je croyais que t'étais mort, toi.
Tu vas voir, on ne me tue pas, moi, et je me venge toujours, tu le sais bien. À ton tour. Ah non, encore mort, oh non.
Après la légendaire émission Animanga, la culture pop du Japon ressuscite sur Radio Campus Orléans. De l'actu, des débats, des chroniques, des trucs plus ou moins mignons, le Kawaii Campus Club, c'est tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h.
Oui, mignon, ça reste encore à déterminer. On ne va pas toujours parler de trucs mignons dans cette nouvelle émission, mais on va quand même essayer d'être kawaii pendant une heure. Bienvenue à vous, chers auditeurs, sur cette nouvelle émission de Radio Campus Orléans, consacrée au manga, à l'animation japonaise et plus généralement à la pop culture nippone. La France, plus que jamais le deuxième pays qui lit le plus de mangas. On le dit et on le redit, une BD sur deux vendue dans l'Hexagone est un manga. Les achats liés au pass culture ont montré cette dynamique auprès de la jeune génération. On a donc voulu rendre hommage à cette culture et prendre le flambeau d'Animanga, l'émission historique de la radio. On repart avec une nouvelle équipe. Petite précision, c'est une émission enregistrée que vous écoutez pour cette première du mois d'octobre, mais dès le mois de novembre, on sera en direct tous les deuxièmes vendredis du mois à partir de 19h. Et ce soir, j'ai donc le plaisir d'être accompagné par trois invités qui constituent cette grande équipe du Kawaii Campus Club. On est plus nombreux, mais justement, on va se faire des remplacements, rouler au fur et à mesure de cette saison. Donc j'ai l'honneur de vous accueillir tous les trois. On va commencer sur ma gauche par Soléna. Bonjour Soléna, comment vas-tu ? Oula, attends, oui, que j'active ton micro, c'est mieux, voilà.
Bonjour.
Ouais, ça va ?
Oui, ça va, et toi ?
Bah écoute, pas de soucis, toi tu nous fais le plaisir d'arriver à Radio Campus depuis le mois de septembre.
C'est cela.
Ouais, c'est ça, donc avec un projet en tête notamment, d'écriture peut-être d'une bande dessinée éventuellement sur l'univers de la radio. En tout cas, c'est vraiment ce que tu ambitionnes et ça serait vraiment cool que ça puisse se finaliser.
Moi aussi, j'espère que ça puisse se finaliser et que... pour une fois, je puisse finir un projet et pas l'arrêter et prendre un autre.
Bah on te le souhaite en tout cas et puis on sera de tout cœur avec toi. Ensuite, on va continuer. Alors, on est avec Doriane notamment. Alors, Doriane, c'est particulier, elle n'est pas étudiante, elle n'est pas adulte, elle est collégienne. Elle habite à Saint-Jean-de-la-Ruelle, pour être précis. Bonjour Doriane, tu as 13 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, comment ça fait de se retrouver à la radio pour la première fois de ta vie, quoi ? Parce que c'est quand même une expérience assez... particulière, j'imagine.
Bah,
bien.
Ça fait un peu bizarre puisque bah, au collège c'était plus simple, j'étais avec des gens plutôt de mon âge et bah, là je suis avec des gens plus âgés et on va parler d'un sujet qu'on partage tous.
Bah, la cour des grands, tu vas l'expérimenter et on en a parlé un peu en off tout à l'heure, tu as de belles références manga qui vont être intéressantes à écouter dans notre débat de tout à l'heure. Victor, tu es à ma droite, tu es le dernier membre de ce trio de choc, comment vas-tu ?
Bonsoir à toutes et à tous, bah, très content de cette première émission qui va s'annoncer... je pense assez cool quoi. Enfin, j'espère qu'on transmettra de la bonne humeur et que les gens auront envie de nous réécouter une prochaine fois.
Oh ben je n'en doute pas. Enfin, en tout cas, on va tout faire pour vous fidéliser. Et donc au sommaire de cette émission, quand même, les coups de cœur du Miskatonic Shop parmi les nouveautés manga du mois. C'est quelque chose qui reviendra sur chaque émission puisqu'on a signé un partenariat avec cette boutique située dans le centre-ville d'Orléans. La première donc d'une longue lignée. On parlera également donc du meilleur des meilleurs meilleurs shonen selon toi, Victor? Ça sera ta chronique de tout à l'heure. Les shonen, cette catégorie de manga sans doute la plus populaire, axée autour des adolescents. Et de shonen, il sera toujours question pour cette grande discussion. On en parlera notamment au travers des Big Three traditionnels, ces trios qui ont dominé leurs époques respectives. Et on terminera enfin par un petit jeu. La tradition des morts du jour de Radio Campus Orléans aurait pu se poursuivre ici, mais ce sera un petit peu compliqué. Mais on va parler dans ce cas-là des naissances, et plus précisément des naissances de personnages de manga. Je ne vous en dis pas plus. C'est le Kawaii Campus Club à l'instant sur Radio Campus Orléans, la nouvelle émission manga et animé sur le 88.3 FM. Bienvenue à vous. Le Kawaii Campus Club, tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h sur Radio Campus Orléans. Et le Miskatonic Shop, comme je vous le disais tout à l'heure, est le partenaire du Kawaii Campus Club. Tous les mois, nous allons venir à la rencontre de Gaël, son gérant, pour présenter ses coups de cœur parmi les nouveautés manga. Je vous explique comment il faut faire pour repartir avec un joli manga gratos tout de suite après. D'abord, je laisse l'expert nous présenter ses choix pour ce mois d'octobre. Gaël, on est très heureux de faire ce partenariat avec toi et avec Miskatonic Shop, parce que, notamment, tu es un ancien de Radio Campus Orléans, tu es passé un petit peu par l'ancienne animation Animanga, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Oui, c'est avec une certaine émotion, effectivement, que je reprends un petit peu ce rôle que j'ai eu il y a de nombreuses années. Oh, voilà, ça ne rajeunit pas. Où à l'époque, effectivement, des amis proches faisaient Animanga et m'avaient proposé à l'époque de tenir des fois de temps en temps une petite chronique, un coup de cœur sur la Jap Animation, sur les mangas, ainsi de suite.
On va essayer de présenter des nouveautés, mais pas que, en tout cas des coups de cœur, voilà, que tu as pu déceler chaque mois. Donc tu en as plusieurs à nous présenter, est-ce que tu peux nous les indiquer s'il te plaît ?
Alors oui, donc il a fallu faire un choix parce qu'il y a quand même énormément de titres qui sortent par mois. C'est des titres, on va dire, plutôt seinen, hein, plutôt destinés à un public fin adolescent, voire clairement adulte, hein, je pense surtout au deuxième là que j'ai devant les mains. Alors le premier titre auquel je voulais faire la lumière, en parler, c'était Tank Cher, aux éditions Kana. Le tome 2 est sorti il y a très très peu de temps, où là on va partir sur un manga plutôt action. Une histoire de vengeance et de protection, puisqu'on va suivre l'aventure d'un frère et d'une sœur dans un monde qui est, s'il fallait le comparer à un autre manga, pareil, un petit peu obscur, mais qui a eu la chance d'être révélé par Netflix, c'est un peu un monde à la Doro et Doro. Sur son côté clairement débridé de la violence, des fois on dirait gratuite, pas forcément, le côté un peu crasseux. D'ailleurs, dans le graphisme, les teintes de noir sont très présentes. C'est assaillant. Il y a un côté aussi complètement burlesque, voire même complètement décalé des personnages. Et là où le thème est assez original, c'est que donc on va suivre l'aventure donc d'un frère et d'une sœur. Une sœur qui, ces deux-là, avaient été dans une école spécialisée d'assassins. Sauf qu'il a voulu protéger sa sœur et se sont enfuis. Et en s'enfuyant, bien plus tard, sa sœur a été prise pour cible. Il a pris un projectile, une balle destinée à sa sœur et il est devenu handicapé moteur. Voire même plus que ça, puisqu'il est complètement amorphe, il ne bouge pas, il est sur sa chaise roulante, et sa sœur s'occupe de lui. Mais son instinct se réveille, son instinct de tueur et de protecteur se réveille dès qu'il sent une aura meurtrière autour d'eux. Et là où c'est complètement décalé, c'est que donc c'est une sorte de... Alors, dire un super-héros, c'est compliqué, mais un peu au niveau des pouvoirs, de sa puissance, il a un côté super-héros en chaise roulante. Et la chaise roulante, c'est l'équivalent de la voiture de James Bond. Hein. Il y a plusieurs modèles avec plein de gadgets débiles, des lance-roquettes, des choses comme ça. Et voir un super-héros, justement, handicapé moteur, qui défonce tout... Hein, c'est couillu, hein, on peut le dire, au niveau de la thématique. Et on pourrait dire, oh, c'est encore un manga moralisateur. Non, justement, c'est la morale est beaucoup plus nuancée et beaucoup plus intéressante. On ne va pas s'apitoyer sur... non, c'est, regardez, il a fait ça, bah, c'est cool. Et moi, j'apprécie énormément.
Ton deuxième choix, à présent ?
DRCL, donc Dracula, un manga de chez Kiun. Donc là, il y a le tome 3 qui est sorti récemment. Le mangaka et le scénariste derrière, c'est celui qui est derrière Glaucos, mais vous le connaissez sûrement derrière des titres comme Ascension ou Innocence. qui était sorti chez Delcourt, si ma mémoire est bonne. Donc là, c'est Dracula chez Kihun, qui reprend très librement, il n'y a pas d'autre mot, très très librement, l'œuvre de Bram Stoker, donc le fameux Dracula que tout le monde connaît, en changeant un petit peu les personnages. D'ailleurs, on va avoir un personnage vraiment très central qui est celui de Mina. Le Dracula, là, le 33 vient de sortir, on le voit à peine, et on suit vraiment les aventures de jeunes gens dans cet univers. Alors attention, c'est un manga, je préfère prévenir, à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est malsain. C'est du malsain. C'est-à-dire que vraiment la beauté des graphismes, les détails frôlent avec des situations complètement plus que problématiques. Et justement, ça dénonce ce côté-là. Je veux dire de plus, si ce n'est que si vous aimez les mangas assez psychédéliques aussi, pareil au niveau de la façon dont c'est mis en scène, au niveau du graphisme, parce qu'on dit c'est beau, mais des fois on regarde un truc, on fait qu'est-ce que je suis en train de regarder là, c'est beau, mais c'est quoi? Et en fait, ah d'accord, c'est vu comme ça. Donc c'est vraiment une vision très alambiquée du Bram Stoker de Dracula. Donc ceux qui ont connu, alors Ascension encore, c'était assez puissant. Innocente et Innocente Rouge, qui étaient sortis sur donc le bourreau du roi, donc la famille Sanson de Paris, qui était pareil, très, très perché sur certains thèmes, vous ne serez pas dépaysé.
Merci beaucoup Gaël pour cette première chronique d'une longue lignée, en tout cas nous l'espérons.
Je l'espère aussi.
Et voilà pour les deux premiers coups de cœur de Gaël. À noter qu'il nous a chaudement recommandé un troisième manga, Under Geister, un titre qui narre les aventures d'un exorciste allemand amoureux de cinéma d'action et qui va accomplir des missions dans le monde entier à base d'affrontements contre des trolls, des gobelins, des sorcières et autres monstres mythiques. Voilà pour nos recommandations du mois. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a du beau manga de qualité à récupérer gratos sur notre antenne dans le cadre de notre partenariat avec le Miskatonic Shop. Les tomes 1 de Tankshare et de DRCL sont à gagner. Pour ça, direction la page Campus et le compte Instagram de Radio Campus Orléans, la page Facebook pardon, et le compte Instagram de Radio Campus Orléans, c'est quand même mieux de le dire comme ça. On vient de mettre une publication sur nos deux réseaux sociaux et on vous attend dans les commentaires. Les deux premières personnes qui se seront manifestées pourront venir à la radio la semaine prochaine afin de récupérer un de ces deux livres. On vous attend. Le top départ est lancé. Il est l'heure désormais de notre chronique mensuelle. C'est Victor qui va se mouiller pour la première fois. Le manga et la pop culture japonaise, c'est sur Radio Campus Orléans, dans le Kawaii Campus Club. Et Victor, tu lis beaucoup de choses, mais quand on parle manga avec toi, il y en a un qui revient constamment. Le shonen absolu peut-être, toujours est-il que Fullmetal Alchemist, banger absolu des années 2000, est ton œuvre de référence. Et tu vas nous expliquer pourquoi.
Oui, oui, oui. Alors Fullmetal Alchemist, le shonen ultime, c'était le titre de ma chronique. Avant de commencer à rentrer dans les débats houleux, je pense qu'on va faire un petit résumé pour les gens qui ne connaisseraient pas cette œuvre pourtant... fondatrice, j'ai envie de dire, des shonen des années 2000. Donc, résumé, publié entre 2001 et 2010 dans le mensuel Shonen Gangan, Fullmetal Alchemist, ou FMA pour les intimes, raconte l'histoire des frères Elric partis à la recherche de la pierre philosophale, donc une pierre magique, enfin, entre guillemets, alchimique, mais c'est de la magie, hein, on va pas tortiller, pour récupérer leur corps qu'ils ont perdu à la suite d'une expérience alchimique qui a mal tourné, qui a coûté le corps d'Alphonse et le bras et la jambe d'Edward. Donc voilà, donc ça c'est le pitch vraiment de base, c'est comme ça que l'histoire commence. Après ça évolue radicalement vers autre chose, mais je vais pas spoiler. FMA ont quelques chiffres. Alors il y a 27 tomes, il y a 5 romans qui ont été écrits par Hiromu Arakawa.
Ouais, c'est ça.
La mangaka qui a dessiné Fullmetal Alchemist. On a deux séries animées, une première qui suivait à peu près le manga et qui au bout d'un moment a pris une direction différente parce que le rythme de production des animés était plus rapide que la production écrite, donc du coup ils ont dû prendre leur propre liberté, mais ça reste un manga tout à fait acceptable, moi j'ai bien aimé, hein. Ça reste de qualité. Et une deuxième série qui s'appelle Fullmetal Alchemist Brotherhood, la fraternité, littéralement, la fratrie, pardon, qui du coup là suit suit strictement le manga jusqu'à la fin, une fois que le manga a été effectivement a fini d'être paru.
Ouais, j'avais beaucoup aimé la fin de la du premier animé, mais j'avoue que j'attendais avec impatience cette deuxième adaptation, personnellement.
C'est également trois films, un live action que je n'ai pas vu.
Moi non plus.
Mais il paraît. Non, j'ai regardé des critiques. Apparemment, c'est pas si mal que ça. Donc,
sans
ça,
déconner.
C'est mieux que Dragon Ball Z en live action.
Ouais.
Tu m'en
diras tant,
Et deux films d'animation. Donc, le premier qui sert à clôturer la première série animée et le deuxième qui revient sur les chapitres 40 à 70, je crois, de Brotherhood. Il est classé 5e meilleur manga de tous les temps sur le site Sens Critique.
Ok. J'aime bien curieux de voir les quatre de
je crois qu'il y avait One Piece, Death Note, Naruto.
Alors on va pas être copains là.
Ah bon?
Ah oui, non, parce que j'aurais bien mis éventuellement d'autres références, mais alors là, ouais, on va pas être copains là. Mais bon, c'est que mon opinion personnelle. Vas-y, je t'en prie.
Et ce FMA a connu un succès absolument mondial. Il est vendu à 70 millions d'exemplaires. Il fait partie de la pop culture de façon générale. Enfin, je sais pas si vous traînez sur Reddit ou sur des sites où il y a des mèmes. Mais il y a beaucoup de mèmes qui viennent de Fullmetal Alchemist, voilà, donc ça fait partie vraiment du paysage urbain, enfin du paysage culturel populaire. Quelques mots sur son auteur, l'autrice, donc Hiramu Arakawa. Elle a un avatar de vache, ce qui marque un petit peu de son enfance. Enfin, ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais du coup, elle se présente toujours systématiquement sous la forme d'une vache avec un slip rose.
Alors, je voyais la vache, mais j'avoue que j'avais pas.
Non, dans le tout premier FMA, elle dit bonjour les filles et les garçons, ça c'est mon slip rose.
Je regarderai avec plus d'attention, ouais.
Et c'est une mangaka qui est assez mystérieuse parce qu'elle fait peu d'apparitions publiques. En général, elle se fait représenter par d'autres personnes sur des événements type convention ou interview.
C'est le cas pour beaucoup de mangaka et j'ai l'impression encore plus pour des mangaka féminines, j'ai l'impression.
Ah, c'est possible.
Il y en a beaucoup, hein, qui font ça.
Bah, après, j'imagine que le succès étant planétaire, elle voulait éviter une fame, enfin renommée, une célébrité qui ne lui aurait pas convenu.
Tu ne sors plus de chez toi. Oui.
C'est ça, ouais. Non, mais c'est pour ça que les Daft Punk, ils avaient raison à mettre un casque. Mmh. Ça peut être utile.
C'est vrai.
Elle a été élevée dans une laiterie sur l'île d'Hokkaido, dans une famille nombreuse. Elle part faire ses études du coup à Tokyo. Elle travaille 7 ans à la ferme une fois qu'elle a fini ses études. Et en parallèle, elle prend des cours de dessin, de peinture à l'huile. Voilà. Et puis après, elle se lance dans le manga. Outre Fullmetal Alchemist, qui est du coup sa première œuvre qui a réellement marché, on peut citer des œuvres telles que Silver Spoon, qui est une tranche de vie rurale, le lycée agricole, etc. et tout, qui est plutôt pas mal, qui parle beaucoup de nourriture, ça donne très très faim comme manga. Je vous conseille pas si vous avez la dalle. Sinon, on a Hero Tales, on a The Heroic Legend of Arslan, qui est une adaptation manga des célèbres romans sur Arslan, voilà. Et du coup, bah voilà, je fais le tour de ma petite introduction à FMA. L'idée derrière, c'était donc, est-ce que c'est le shonen ultime ? Là est la question. En tout cas, c'est un shonen qui a une fin très satisfaisante, que je ne vais pas vous spoiler ici, bien sûr, je vous encourage à aller la découvrir par vous-même. Mais déjà, c'est un shonen qui est fini. Ce qui n'est pas le cas de One Piece ou de Naruto. Enfin, je ne sais pas si c'est fini Naruto, c'est fini maintenant.
Oui, c'est fini. Oui, c'est fini. Fini. Bah, maintenant, c'est sur la suite Boruto maintenant. Ouais.
D'accord. Ouais, ouais. Mais il y a bien dû avoir 200 épisodes, un truc comme ça.
Oh, plus, oui, plus. Je ne pourrais pas te dire le nombre de chapitres. Je crois plus de 700 chapitres, il me semble, pour
700
Naruto.
Chapitres,
semble,
oh la vache.
Ouais, il me semble. On n'est pas encore au niveau de One Piece où là, on a dépassé les 1100, il me semble, chapitres. Mm-hmm. Mais quand même, ouais.
Alors que là, il y a 27 tomes, ça se lit, je ne sais pas combien il y a de chapitres, mais je crois qu'il y a 4 ou 5 chapitres par tome. Ça se lit relativement facilement, ça peut se lire en une semaine si jamais on est très motivé. Et voilà, est-ce que c'est le shonen ultime ? Alors c'est vrai qu'il a été publié dans un magazine de shonen, mais ça aborde des thèmes qui sont à la limite du seinen quand même.
Oui.
Ça parle de guerre, ça parle de génocide, ça parle d'expérimentation sur les humains.
Alors le seinen, hein, juste pour nos auditeuristes qui ne connaissent pas, c'est manga plutôt pour adultes ou adolescents très âgés. Hein.
C'est
d'ailleurs,
ça.
Je crois que c'est ce que Gaël disait tout à l'heure dans sa chronique. D'ailleurs. Mmh. Mais je préfère repréciser les termes.
Ouais. En tous les cas, ça n'est pas un Iketsu, c'est-à-dire que voilà, le truc traditionnel d'un héros qui acquiert des pouvoirs magiques et qui va essayer de de défendre sa terre contre les forces du mal, etc. Et tout. Là, dès le départ, il y a des motivations qui sont complètement égoïstes, parce que voilà, ils veulent juste récupérer leur corps qu'ils ont perdu. Et il n'y a pas d'apprentissage non plus, c'est pas une montée en puissance. Les personnages sont pétés dès le départ. Enfin, la compétence la plus puissante qui existe en alchimie, c'est le fait de pouvoir invoquer l'alchimie sans avoir besoin de dessiner des cercles de transmutation. Ouais. C'est ça. Et eux, dès qu'ils arrivent, ils ont déjà cette capacité. Donc bon, c'est voilà. Il n'y a pas de montée vraiment en puissance du héros. Il y a des évolutions quand même. Hein. Ça reste pas figé du début à la fin.
Plutôt humaine, ouais.
Mais c'est plutôt des évolutions humaines. Après, donc, je me suis forcé à vouloir faire un point positif, point négatif quand même sur le manga.
Vas-y.
Je vais commencer par les points négatifs parce que ça va être vite évacué.
Ouais, mais on est bien d'accord.
Les héros sont quand même assez génériques. Édouard et Alphonse n'ont pas beaucoup de personnalité, à part qu'Édouard mange beaucoup.
Je dirais qu'Alphonse en a plus que son.
Ouais,
son
mais il a pas beaucoup l'occasion de pouvoir s'exprimer en fait. Il reste beaucoup dans l'ombre de son frère, je trouve. Ouais. Et c'est vrai que du coup, les héros sont pas forcément les plus attachants qui aient jamais été faits dans un manga. Ouais. Aussi, il y a le problème avec la solution de Xin, j'ai noté, parce que dedans il y a un autre pays. Enfin, la plupart de l'action se passe dans un pays qui s'appelle Amethyst.
Amestris,
qui ressemble globalement à une dictature fasciste un peu époque Première Guerre mondiale.
Il y a un Führer à la base.
King Bradley, ouais. Qui est le Führer. Ouais. Mais il y a un autre continent, enfin un autre pays à côté qui s'appelle Jing, qui est clairement inspiré de la Chine, bien évidemment. Et à la fin du manga, enfin, on découvre plusieurs personnages qui viennent de cet environnement-là pour rapporter la pierre philosophale pour permettre à l'empereur de Qing de pouvoir vivre éternellement. Et à la fin, c'est ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est un petit peu... Enfin, on ne sait pas trop sur quel pied danser par rapport à ça parce qu'il n'est clairement pas montré comme étant un personnage positif, l'empereur. Et on se dit que c'est un peu décevant au niveau de la fin de l'arc. Mmh. Et sinon, j'ai refait une remarque sur le dessin qui est assez cru. Qui est pas très, enfin voilà, c'est pas le dessin le plus magnifique. Le manga dont parlait notre ami tout à l'heure de Miskatonic, DRCL, est beaucoup plus fouillé au niveau du dessin et de la colorimétrie de façon générale. Là, c'est vrai que ça reste quand même assez générique et c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Mais bon, après les points positifs, ce qui rattrape le manga, bien évidemment. Le world building est excellent. C'est un univers qui se tient du début à la fin, dont on n'a pas fini de découvrir les subtilités au cours des différents chapitres. C'est un univers steampunk. En plus, moi, ça me parle particulièrement parce que j'adore le côté steampunk. Enfin, ce serait même du dieselpunk, je pense. Alors après, ça, c'est des distinguos qu'on fait dans les cercles de gens qui n'ont vraiment pas de vie. Mais c'est plus dieselpunk parce que c'est plus Première Guerre mondiale que vraiment époque victorienne. Mais c'est vraiment très bien. Le world building est excellent. Les personnages secondaires sont géniaux. Il n'y a pas un seul personnage à jeter dans tout le manga. Même des personnes, ce qu'on appellerait des PNJ, quoi, des personnages secondaires qui ne sont là que pour encenser le personnage principal ou faire ce genre de truc, ont ici un vrai arc narratif, un vrai développement, une vraie personnalité, et ils sont tous attachants.
Ouais, moi, je vais te dire, c'est un médecin légiste qui m'a fait peut-être le plus pleurer dans ce manga. Je n'en dirai pas plus.
Mais... C'est ça. Ou bien, il y a aussi l'équipe de Mustang, par exemple, avec Risa, avec tous les autres qui sont tous très intéressant et on aime bien suivre leur aventure, etc. L'évolution des rapports entre les personnages est un point central aussi, parce que du coup c'est un manga qui est quand même un petit peu long, les relations entre les personnages évoluent beaucoup et c'est très plaisant. Le scénario est plein de rebondissements aussi, et il y a aussi l'humour qui prend une place très importante dans ce manga, ce qui lui permet d'être un peu plus léger à certains moments, même sur des sujets très graves. À la fin de chaque manga, il y a des petites strips de humoristique que fait la mangaka, en se moquant de ses personnages et des clichés qu'il y a dans le truc, etc. et tout. Mais voilà. Ouais. Donc c'était ma chronique sur FMA, le shonen ultime.
Magnifique manga, effectivement tu l'as bien résumé, merci beaucoup Victor. Et bien autour de la table, Dorian, Solena, est-ce que vous connaissez Fullmetal Alchemist? Est-ce que vous avez vous aussi été bercé, Dorian?
Alors, pour ma part, je le connais que de vue. Enfin, j'ai pas eu trop l'occasion de vouloir regarder. J'ai vu quelques épisodes, mais pas tout. Et j'attends de découvrir la suite.
Victor, t'as convaincu?
J'espère bien.
Soléna, tu le connais, toi?
Honnêtement, j'ai connu assez tardivement Fullmetal Alchemist grâce à une amie à moi que j'ai connue sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé d'abord par Fullmetal Alchemist Brotherhood. Déjà par l'animé, parce qu'elle m'avait conseillé de commencer par l'animé. Puis après, vu que l'animé m'avait énormément plu, j'ai commencé à acheter les doubles tomes de Fullmetal.
Oui, les fameux, ouais.
Et franchement, ce manga, il est franchement incroyable. Et même si, bon, je peux comprendre d'un point de vue que la fin n'était pas très satisfaisante, honnêtement, j'ai pensé que, genre, il a un peu terminé toutes les arcs et toutes les choses qu'ils avaient racontées dedans.
Mmh. Okay. Oui, bah moi pareil, je vais pas en dire beaucoup plus, mais ouais, j'ai été marqué vraiment par ce manga et par la qualité des personnages secondaires qui ont tous quelque chose à raconter. Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Je n'en dirai pas plus parce que, bah, mine de rien, le temps file et qu'il faut continuer l'émission. Je trouve que c'est le bon moment pour la première pause musicale de l'histoire du Kawaii Campus Club. Et quoi de mieux qu'une musique tirée de Fullmetal Alchemist? Victor, tu as choisi un morceau de la bande-son du premier animé Fullmetal Alchemist, pas Brotherhood, mais celui d'avant. Il faut bien reconnaître que cet animé avait une bande de son exceptionnel, et tu as choisi le morceau intitulé Brothers, mais plus précisément Bradja, si je le prononce bien en Bradja. Russe, ça veut dire frère en russe. C'est interprété par la chanteuse Ochima Michiru, qui en a fait une version en anglais, donc intitulée Brothers, mais aussi une version en russe que nous allons écouter. Pourquoi en russe? Bah franchement, j'en sais fichtrement rien, mais toujours est-il que c'est une tuerie.
Ah, moi je sais pas, c'est parce que je l'ai entendu dans l'animé, mais...
ouais. Ah non, mais elle est géniale en tout cas. Et donc c'est maintenant sur Radio Campus Orléans, Kawaii Campus Club. On revient dans quelques minutes. Закон бытия. magnifique, c'était donc Bladja ou Brothers de la bande son de Fullmetal Alchemist, le premier animé interprété par Oshima Michiru. C'est désormais l'heure de notre thème principal, on va parler shonen. Le Kawaii Campus Club, tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h sur Radio Campus Orléans. Alors rassurez-vous, hein, on va pas s'entretuer au cours de ces débats, mais quand même, on est là pour assumer un peu nos opinions. On a commencé par Fullmetal Alchemist, mais les autres shonen, alors, où se placent-ils dans l'histoire? Qui sont-ils? Que retenons-nous dans nos panthéons personnels? Et on a décidé, pour cette première émission, d'évoquer les Big Three, les trois gros pour les non-anglophones, un terme qu'on a utilisé pour évoquer la fameuse génération One Piece, Naruto, Bleach des années 2000, une époque foisonnante pour les shonen. Je sens que certains d'entre vous vont vouloir, je pense, parler de cette grande époque, mais qu'en est-il aussi des autres générations? On a tenté de déterminer différents Big Three en fonction des époques, on va les opposer, les comparer, évaluer leurs influences respectives sur la culture manga et la culture pop en général. Alors, la petite liste un peu que j'ai établie, vous allez me dire ce que vous en pensez, très honnêtement. D'accord. Pour les années 80, moi je me suis mis Dragon Ball, Saint Seiya et Captain Tsubasa, ou Olive et Tom si vous préférez, pour c'est le fameux manga de foot. Un trio qui peut être selon moi débattu aussi peut-être avec Jojo's Bizarre Adventure, ainsi que City Hunter et Okuto no Ken, Ken le survivant, mais qui paraissait dans le Weekly Shonen Jump, mais que je trouve moi pour le coup un peu à la frontière du seinen. C'est en tout cas ce que j'en pense. Début
pareil pour Nicky Larson.
Ouais, tout à fait. Début et milieu des années 1990, Yu Yu Hakusho, Slam Dunk et alors au choix soit Kenshin le Vagabond ou alors Détective Conan, sorti en 1994, plus vieux que ce que je pensais, qui est un phénomène presque incomparable au Japon encore aujourd'hui, avec plus de milliers d'épisodes et de chapitres. Mais c'est un truc de fou, c'est un phénomène absolument dingue. On s'en rend pas forcément compte en France à quel point ça pèse dans la pop culture japonaise. Ça. J'avais mis aussi Hajime no Ippo, le manga de boxe qui se poursuit encore aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le début et le milieu des années 90. Fin des années 90, milieu des années 2000, donc le fameux grand Big Three avec Naruto, One Piece et Bleach. Très grande ère du shonen, car bien d'autres candidats l'étalonnent, Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh, Digimon, Shaman King, Death Note, qui est borderline seinen pour moi, même seinen pour moi, très honnêtement, mm-hmm. même s'il est paru encore une fois dans un magazine shonen. GTO, Soul Eater, Gintama, et en sport, on a Prince of Tennis et Aishin 21, et je ne compte même pas Full Metal Alchemist, qui est pour nous deux Victor hors catégorie. Fin des années 2000, milieu des années 2010, One Punch Man, Fairy Tail et IQ, le manga de volleyball. Mention spéciale pour Assassination Classroom, Seven Deadly Sins ou encore Magic. Et on va bien sûr me parler pour certains de l'attaque des titans, qui est catégorisée shonen sous prétexte qu'il était publié dans un magazine shonen, mais pour moi c'est clairement un seinen. On sera peut-être pas d'accord sur le cas. Et enfin, fin des années 2010 et des débuts 2020, pour moi le trio semble assez clair: My Hero Academia, Jujutsu Kaisen et Demon Slayer. Même si ce dernier Demon Slayer a surtout marché grâce à l'anime, le manga n'avait pas fait un superbe démarrage avant l'anime et sa magnifique animation. On a aussi du Spy X Family, Black Clover, Tokyo Revengers a souligné. Je pensais aussi à Chainsaw Man, mais Gaël de Miskatonic me disait qu'il le voyait plus en seinen, et je suis plutôt d'accord avec lui. Est-ce que j'ai globalement bon, selon vous?
Oui, ça... Je suis assez d'accord sur le fait qu'en fait, il y a beaucoup de shonen qui en fait sont des seinen la plupart du temps, même si jamais ils sont publiés dans des magazines shonen. Enfin, bah, Shingeki no Kujin, par exemple, l'attaque des titans, effectivement, c'est pas à montrer à un gamin de 13 ans, quoi.
Je confirme.
Okay, ouais. Effectivement.
J'ai commencé l'animé Attaque des Titans au collège, et je me rappelle quand j'ai vu le gros titan avec ses dents et ses yeux, j'ai vu flou pendant une bonne semaine.
Voilà, tout à fait. Et Dorian, toi, dans les mangas que j'ai cités notamment, est-ce que, parce qu'on a beaucoup parlé en off tout à l'heure de ta génération, t'es clairement, même si tu es de la nouvelle génération, t'as été très bercé par cette fameuse génération des Naruto, One Piece et Bleach, hein, ce fameux grand Big Three. Est-ce qu'il y a d'autres mangas aussi ou d'autres générations qui t'ont marqué dans ce que je t'ai dit?
Alors, pour moi, puisqu'on a parlé de Shingeki no Kyojin, la tête des titans, alors moi je l'ai regardé, j'avais 11 ans à ce moment-là.
Ah oui, un peu jeune.
J'avais 11 ans et je l'ai fini... quand j'étais à mes 11 ans et demi, je crois, parce qu'à un moment, je m'étais arrêtée. Et il y a aussi Slam Dunk, que je connais, mais que je voulais regarder, mais que j'arrive pas à trouver où on peut le voir.
Ouais, pourtant, il a été réédité hein, ces derniers temps. Et je crois qu'il y a même des versions de luxe là, qui sortent récemment pour Slam Dunk. Donc voilà, tu peux les trouver, je pense, dans les boutiques spécialisées, pour le coup. Et c'est vrai que ça, c'est une sacrée référence, parce que c'est le manga de sport, certainement, au Japon. Pour le
même
coup.
Si ça parle d'un sport qui n'est pas forcément le meilleur.
Ça dépend de quel pays.
Je ne suis pas d'accord avec toi, et je défendrai mon bout de gras, bec et ongle. Le basket est le plus beau sport du monde. Bref, sortons de ces considérations. Si on essaye de prendre un peu de recul, quelle génération, selon vous, trouvez-vous la plus marquante ? Parce que moi, j'ai parlé de celle de Naruto, One Piece et Bleach, mais c'est parce qu'il y avait effectivement une génération foisonnante de shonen. Mais peut-être que pour vous, il y en a d'autres également. Est-ce que vous en... Voilà, est-ce que...
Moi, pas en manga, mais en animé, je dirais...
Je parlais en shonen, hein, encore une fois.
Hein. Ah oui, oui.
Oui,
mais
oui, on est sur shonen. Hein.
Je sais pas, Neon Genesis Evangelion, c'est classé en shonen ou pas ?
Ah, c'est compliqué ça pour
c'est
le
compliqué,
c'est un
hein.
animé ouais. déjà pour commencer, avant d'avoir mm-hmm. eu ces adaptations en manga, ça a fait un peu le chemin inverse. Evangelion, ouais, je le mettrais bien en seinen. Hein,
ah, il y a quand même des thèmes christiques,
ouais,
enfin,
pour moi c'est trop complexe.
Un peu dark et tout, mais. Ouais, moi je dirais, enfin, c'est moi ce qui m'a le plus marqué, c'est Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop et Samurai Champloo.
D'accord, ouais. Donc ça, c'est plutôt le début des années 2000 pour Cowboy mm-hmm. Bebop et Samurai Champloo sur les animés, alors que Evangelion, on était plus au milieu des années 90, je crois.
Ouais, c'est ça,
hein,
ouais.
Tout à fait. Soléna ?
Honnêtement, bah moi je suis plus de la génération des 2000, début 2000, donc je dirais les shonen qui m'ont plus influencé, c'est plus les Naruto, One Piece, même si j'étais plus du côté de Fairy Tail.
Ah, c'est rare.
Oui, c'est très rare. J'ai commencé les animés déjà par Sonic X, je sais pas, mm-hmm. Enfin c'était un dessin animé à l'époque quand je l'avais regardé. Et petit à petit, j'avais mes cousins qui regardaient Naruto, One Piece, même Saint Seiya, Inazuma Eleven aussi, qu'on ne cite pas tout le temps. Mmh. Et en arrivant en France, bah, je me suis mise à regarder Fairy Tail. Et je dirais aussi d'autres animés comme Crocono Basket, vraiment des animés qui, je dirais, à cette époque-là, ne se faisaient pas beaucoup entendre, mais qui étaient assez populaires, en fait, je dirais.
Ouais. Alors, tu parles beaucoup d'animé et oui. En termes de manga.
En termes de manga, ah, c'est plus compliqué parce que j'étais plus dans l'animation.
J'étais plus dans l'animation. Ouais.
Mais en termes de manga, je dirais plus ceux de fin 2020. Enfin, pas fin 2020, mais plus fin 2018. Enfin, 2018 environ, avec Jujutsu Kaisen, ouais. que j'ai vraiment commencé en manga. Les Chainsaw Man et vraiment les nouveautés au niveau de manga.
Ok. Et toi Dorian ?
Alors, pour ma part, il me semble que mon tout premier animé que j'ai regardé, c'était Captain Tsubasa okay. ou Olive et Tom. Et...
C'était la nouvelle version ou l'ancienne version ? Parce que tu sais, tu avais une version des années 80-90 que nous, on a connue. Nous, on est de la vieille génération. Et après, il y a eu un remake qui a été fait d'ailleurs par le studio qui a fait le nouvel animé aussi de Jojo's Bizarre Adventure et qui était sorti, je ne sais plus si c'était 2016 ou 2018. C'était le nouveau Captain Tsubasa. C'est celui-là que tu as connu ?
Oui, c'est ouais. plutôt celui de...
Qui est passé sur TF1, je crois, il me semble.
Oui, je ouais, crois. Je parce que quand je regardais ça, c'était sur... Tefu Max.
Ouais,
qui...
Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas trafiqué les noms des personnages, contrairement à nous. Parce que nous, on a connu Olivia, on a tenu Nutoma Price, alors que toi, tu as connu bien Tsubasa Ozora et Genzo Wakabayashi, par exemple. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, la nouvelle génération, quand même, a été un peu plus respectée que nous. Je dis ça, On a parlé. Voilà, vous avez évoqué un petit peu ce qui vous a marqué personnellement, mais justement, je reviens sur la question que je vous avais posée tout d'abord. Prenons du recul un peu. Essayons mm-hmm. d'analyser les choses de manière un peu objective, qualitativement, au niveau de l'impact. Qu'est-ce que, enfin, pour vous, vraiment, la grande ère du shonen, la grande ère des Big Three, pour vous, c'est laquelle ? Est-ce que c'est cette période foisonnante, justement, du début des années 2000 ? Est-ce que c'est cette période plus actuelle où on a une animation de dingue quand on parle, justement, des adaptations animées, même One Piece, d'ailleurs, qui commence là à avoir une nouvelle, une animation assez dingue par rapport à ce qu'on a connu auparavant ? Ou est-ce que c'est l'ancienne génération, par exemple, des années 80-90 avec les Dragons Dragon Ball qui a vraiment pavé tout le chemin. Pour vous, c'est quoi la grande ère, le Golden Age un petit peu des shonen manga et par extension les Big Three, quoi, les meilleurs Big Three?
Moi, je dirais plutôt fin des années 2010, au genre One Punch Man, en fait.
D'accord.
Parce que ce que j'apprécie beaucoup dans l'écriture de One Punch Man, c'est qu'il y a un vrai recul vis-à-vis des codes qu'il n'y a pas dans Naruto, One Piece ou Bleach ou même Dragon Ball, quoi, qui effectivement sont des neketsu la plupart du temps, sont assez calibrés entre guillemets dans la narration vis-à-vis de ce qui est attendu d'un héros, ce qu'on attend de ce qu'il doit faire, des progressions, des protagonistes, des amis qui se fait autour de la, enfin au cours de son voyage. Alors que je trouve qu'à partir de fin des années 2010, il y a vraiment une réflexion là-dessus et une espèce de détachement vis-à-vis de ça que je trouve plutôt appréciable. Moi, j'aime bien toujours le second degré ou même de briser le quatrième mur, par exemple. C'est des trucs qui me plaisent beaucoup en manga. Et c'est vrai que ça, pour le coup, ce serait plutôt cette période-là.
Alors justement, qu'est-ce que tu penses, par exemple, de Dragon Ball qui a commencé en étant quelque part parodique, je sais pas si tu et qui ensuite après est arrivé sur
est devenu plus sérieux,
quelque chose de beaucoup plus sérieux.
C'est pas que c'était parodique, c'est que c'était enfantin. C'est pas tout à fait la même chose, je trouve. Même si jamais il y a de l'humour, etc. Et de l'humour, il y en a toujours dans les mangas, parce que voilà, c'est comme ça. C'est comme dans les films d'horreur sud-coréens, il y a toujours des passages qui font rire. On sait pas pourquoi, mais ils aiment bien ça. Dragon Ball, c'est un cas un peu particulier déjà, parce qu'il y en a eu, je sais pas combien d'adaptations. Ça évolue avec son public, même si jamais ça garde toujours plus ou moins la même recette à la base. Et c'est vrai que c'est marrant qu'il ait fait ce chemin-là, qu'il ait fait ce chemin un peu plus enfantin à quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus adulte, puis revenir à de l'enfantin avec Dragon Ball GT, puis repartir. Enfin, voilà, c'est des allers-retours qui sont...
Ouais, oui, Soléna. Ouais.
Ah non, c'est juste pour dire que, en vrai, je suis assez d'accord, même si, j'ai peut-être regardé les Dragon Ball, je suis pas une très grande fan, mais je suis assez d'accord avec tout ce que tu avais dit, et en plus de ça, j'ai même pas pensé à One Punch Man pour le coup.
Mm-hmm.
Ouais. Donc, j'apprécie que c'est un peu plus différent de ce que j'entends pour le coup.
Ouais. Et Dragon Ball peut-il... est-ce que... Parce que Dragon Ball est placé tellement sur un piédestal...
Est-ce que Goku, c'est Itama, tu vois. Lançons les vrais débats.
Je ne vais pas partir sur ces débats que je trouve... Qui m'exaspère au plus haut point sur Internet.
Je confirme.
Non, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est Dragon Ball a été placé tellement sur un piédestal, quand bien même il y a eu la faute de goût absolument impardonnable de Dragon Ball Super. On pourra peut-être en débattre, Dorian, éventuellement, parce que toi, je sais pas si tu suis Dragon Ball Super. Mais est-ce qu'on peut dire, sans faire de crime de lèse-majesté, qu'un shonen... de type neketsu, c'est-à-dire quand je parle de neketsu, c'est le terme d'un protagoniste qui va s'entraîner pour devenir de plus en plus fort et atteindre son objectif et son rêve. Est-ce que on peut objectivement dire que Dragon Ball a connu meilleur que lui après plusieurs décennies ou plusieurs années? Est-ce que on peut faire tomber Dragon Ball de son piédestal?
En fait, le problème de Dragon Ball, c'est comme en BD, La quête de l'oiseau du temps. La quête de l'oiseau du temps, c'est une BD que m'avait offert ma sœur, que j'ai adorée, moi, et je l'ai prêtée à mon ex à l'époque. Et elle a dit, c'est nul, ça n'est que des clichés. Puis j'ai dit, mais t'as regardé la publication, c'était publié en 1965. Donc... Effectivement, c'est bourré de clichés parce que ça fait partie des œuvres qui ont contribué à l'instauration de ces clichés. Et pour moi, Dragon Ball, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ce qu'il faisait à l'époque, c'était novateur, mais c'est devenu cliché parce qu'au final, ça a été repompé après par énormément de personnes. Enfin, non pas que ce soit mal de repomper Dragon Ball, hein, c'est pas ce que je dis. Mais c'est vrai que du coup, on est un peu habitué à la formule, ce qui fait qu'on l'apprécie moins, je trouve, Dragon Ball à l'heure actuelle qu'on ne pouvait l'apprécier dans les années 90, par exemple.
Je vais poser la question à Dorian. Toi, ta relation avec Dragon Ball, toi qui es de la jeune génération, qui n'a que 13 ans, c'est quoi?
Alors, en fait, je regardais pas vraiment Dragon Ball. Je trouvais ça nul. Bienvenue. J'ai dit tout de suite.
Je trouvais Posons ça, les termes.
Je trouvais ça nul. En fait, je n'aimais pas les images. C'est pas, ça me faisait peur, surtout avec Son Goku qui faisait plutôt le débile. Ouais. il agissait comme un enfant de 5 ans. Et
Mais là, c'était Dragon Ball ou Dragon Ball Super ?
Je sais plus.
Non, parce que oui, dans Dragon Ball Super, on a ce cas-là hein, de Goku qui redevient complètement débile et enfant. Hein. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la série originelle, ça. Ouais. Mais ouais, donc c'était au début. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?
Et puis après, il y avait mon frère qui commençait à regarder Dragon Ball Super, justement. Mmh. Et moi, je passais dans le salon et tout, et je me disais, ah, mais finalement, je pourrais jeter 2-3 coups d'œil. Et au final, je suis restée accrochée dessus et voilà quoi.
Super. Alors moi, j'ai envie de conclure un petit peu ce débat parce que ouais, le temps il file à toute vitesse et il va falloir aussi que je fasse quand même ma deuxième pause musicale qui est importante. Mais répondant à la question centrale. Sur toutes les générations de Big Three que je vous ai citées tout à l'heure, posez votre opinion et dites-moi clairement laquelle, pour le coup, vous paraît être la plus impactante, peut-être pour le manga, pour son histoire. Voilà. Et là, je vous demande peut-être d'essayer justement de vous poser dans un contexte à la fois objectif et en même temps aussi. Sans renier vos considérations personnelles aussi. Hein. Victor.
Bah moi c'est ce que, enfin je vais te redire ce que je t'ai dit tout à l'heure. Moi c'est plutôt fin des années 2010. Ouais. Voilà, il y a FMA, il y a One Punch Man, c'est formidable.
Bah là du coup tu serais peut-être aussi même un peu milieu des années 2000 quoi, avec FMA
c'est
aussi.
C'est ça.
Moi je dirais plus, je sais plus c'était quelle année tu l'avais dit, mais c'est plus l'année avec Demon Slayer et Masha ouais. Et Jujutsu Kaisen.
Ok d'accord, donc vraiment La période quasiment contemporaine quoi.
C'est cela.
Ouais. Et pourquoi ?
Pourquoi ? Bah déjà c'est je trouve que déjà avec Jujutsu Kaisen, il y a eu un petit changement en fait comparé vraiment au Big Three, vraiment One Piece, Naruto où c'est déjà il y a l'aspect assez sombre en fait dans cette histoire, là où Jujutsu Kaisen ça a été genré en dark fantasy de mes souvenirs.
Ouais.
Et avec MHA My Hero Academia
ouais.
Où je vais faire attention parce qu'il y a des personnes qui peut-être vont suivre l'animé. Parce que moi, j'ai fini le manga.
Oui.
Qui
est... Oui, spoil pas trop. Oui.
Je spoil pas trop. C'est que l'histoire, en fait, il est devenu quand même assez sombre, en fait, je dirais vers la saison 7 de souvenirs. Et ça continue encore, surtout avec les combats qui sont en train de se passer actuellement.
Ouais.
Et même avec Demon Slayer, où genre, c'est aussi sombre qu'il se paraît.
Ouais, d'accord. Bah moi je vais conclure aussi, je vais donner peut-être mon petit ressenti, mais avant Dorian aussi, c'est pareil. Toi, ta génération préférée dans ce que j'ai dit, c'est laquelle ?
Alors oui, c'est plutôt la génération avec Naruto, One Piece ouais. Et Bleach.
Qu'est-ce que tu as trouvé particulièrement dans ces mangas ? Qu'est-ce qui t'a accroché ?
Bah alors c'était plutôt l'évolution du personnage.
D'accord.
De sa manière de grandir, d'être plus mature. Et aussi de plutôt, enfin je sais pas trop comment dire, avec quand, par exemple dans Naruto, quand on regarde les tout premiers épisodes, on trouve ça plus comique par rapport au personnage. Et puis en regardant plus son évolution, et ben on s'attache encore plus.
Mmh. Tu t'es retrouvé, ouais. Ça t'a donné un peu des motivations, des objectifs aussi. ça t'a inspiré le personnage de Naruto ?
Oui.
Ouais, d'accord. Bah moi, pour conclure aussi, je vais dire, alors au début que j'ai été inspiré par cette fameuse génération fin des années 90, début des années 2000, j'étais enfant et adolescent à ce moment-là. Moi, c'était avant toute chose, c'était Yu-Gi-Oh! Moi d'abord qui m'a vraiment accroché. Et le manga, je précise, pas le dessin animé absolument ignoble qu'on s'est tapé sur M6. Une censure absolument honteuse des Américains qui d'un animé qui est est lui-même une censure du manga. Lisez le manga Yu-Gi-Oh, c'est absolument incroyable et ça ne parle pas que de jeux de cartes, vraiment. Sinon, après, j'ai été influencé beaucoup par Naruto. Ça a été vraiment ce que j'ai suivi au lycée. J'étais un peu dans la période Bleach, même si j'ai lâché assez rapidement. Aujourd'hui, je suis dans One Piece et dans Hunter x Hunter aussi, que j'adore. GTO également. Et puis, par contre, avec le recul, je me rends bien compte que je me replonge de plus en plus dans les œuvres des années 90. Yu Yu Hakusho a été vraiment une énorme référence pour moi. C'est en fait le premier gros succès de Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. Avant de faire Hunter x Hunter, il a fait Yu Yu Hakusho, qui est juste magnifique. Et j'ai été aussi, là actuellement je suis en train de lire, j'ai lu Slam Dunk il n'y a pas très longtemps, et je suis voilà, sur des mangas aussi comme Hajime no Ippo par exemple, Détective Conan aussi, Kenshin je ne l'ai pas encore regardé, mais j'ai hâte de me mettre à le lire. Ouais, j'ai l'impression que j'ai cette vibe années 90 vraiment qui... alors c'est peut-être de la nostalgie un peu mal placée, mais j'aimerais bien dire que beaucoup s'arrêtent à Dragon Ball et disent « ouais, il n'y a pas eu vraiment de successeur à Dragon Ball ». Je ne suis pas d'accord en fait. 90 aussi pour moi était vraiment une année foisonnante en termes de création, à la fois d'animation et de manga papier aussi. Mm-hmm. Voilà, ça reste mon opinion en tout cas. Voilà. Alors on est à 51 minutes d'émission, comme le temps tourne à présent, le temps de faire une dernière pause musicale avant de conclure avec notre jeu qu'on va devoir un petit peu rusher, mais on va quand même le faire. Alors la première musique du Kawaii Campus Club sera toujours un opening, un ending ou un morceau d'une bande-son d'un animé ou d'un film d'animation, mais pour la deuxième on va à chaque fois sortir un peu de nos terres de Japanimation pour explorer tout ce que le Japon et même l'Asie en général peuvent nous proposer en matière de bangers auditifs, et c'est avec le concours du grand Edouard de la non moins grand de classe internationale, votre rendez-vous groove mondial à retrouver tous les mercredis soirs de 21h à minuit. Edouard nous a donc choisi un titre qui s'appelle Pacifique, c'est de Haruomi Osono, Shigeru Suzuki et Tatsuro Yamashita, trio de choc avec trois artistes qui ont beaucoup contribué dans les années 70-80, en particulier le premier, Haruomi Osono, qui est particulièrement reconnu pour son influence notoire dans le développement de la pop japonaise et même de la musique électronique. Écoutez-moi ça. Ce truc date d'il y a presque 50 ans et je vais reprendre un commentaire que j'ai trouvé sur internet. Le reste du monde était en 1978, mais ce morceau était en 2078. Pacifique, c'est tout de suite. Et on revient. We'll be right back. Et de retour sur le Kawaii Campus Club, on va conclure très rapidement avec notre petit jeu de fin d'émission. Le manga et la pop culture japonaise, c'est sur Radio Campus Orléans, dans le Kawaii Campus Club. Alors on a une tradition sur le 88.3, donc le jeu des morts du jour. Cette fois, on va faire plutôt les naissances du mois ou la naissance du mois. Celui ou celle qui remporte ce point, eh bien, gagnera tout simplement le jeu parce qu'on n'a pas le temps de faire d'autres personnages. Je vous en cite un, donc un personnage de manga qui est né au cours du mois d'octobre. C'est un personnage qui est apparu pour la première fois le 21 mai 1985 dans le Weekly Shonen Jump. Il est chauve, il a une apparence physique tout à fait humaine, à part que il n'a pas de nez. Oui, si j'ouvre vos micros, ça sera peut-être un peu mieux. Oui. Donc oui, il n'a pas de nez, notamment. Donc il est chauve, comme je vous dis. Il est d'une taille relativement, oui, assez petite, on va dire ça comme ça.
Tortue géniale.
C'est pas Tortue Géniale. Non, je vais vous donner sa date de naissance, même si ça vous sert à rien. Il est né le 29 octobre quand même. Alors, je ne sais pas son année de naissance pour le coup. C'est un personnage qui va entamer une formation d'arts martiaux avec un personnage qui va devenir son meilleur ami par la suite. Tous les deux vont s'entraîner côte à côte. Ce né du mois d'octobre également va devenir en fin de compte un personnage récurrent dans le manga dans lequel il sera présent. Voilà, que dire de plus. Il est avec un extraterrestre. Il est accompagné d'un extraterrestre.
C'est pas Akir.
Non.
Non.
D'un extraterrestre, mais d'un extraterrestre à forme humaine. Arts martiaux, chauve, pas de nez, tenue d'arts martiaux, vous le connaissez tous, forcément.
Oui, non, mais une fois que tu vas le dire, ça, on va dire, mais bien sûr.
Mais oui, vraiment.
Bon, bah, bon, y aura personne du coup qui aura gagné ce jeu pour l'instant. On commencera. Bah, ouais, on
donne-nous la réponse quand même.
Bah, oui. Krilin. C'est Krilin.
Ah, Krilin.
Ah,
c'est Krilin tout simplement.
Oh,
voilà.
T'aurais dû dire qu'il s'était fait ressusciter plusieurs fois.
Ah, oui, c'est vrai.
Peut-être les 6 points sur son front aussi.
Oui, c'est ça, les 6 points sur son front. C'est ouais, mais le pas de nez également. C'était intéressant parce qu'il y avait une séquence notamment dans laquelle le fait de ne pas avoir de nez, ça va beaucoup lui servir face à un mec en fait qui pue et qui ne se lave pas en fait. Oui, vraiment, un gars qui s'appelle Bactéry. Bref, voilà, je vous encourage à lire le manga, c'est n'importe quoi. Bref, eh bien voilà, c'est sur ce qu'on va conclure notre émission. Malheureusement, pas de vainqueur cette fois-ci sur notre jeu du jour. Eh bien, vous pourrez retenter votre chance la prochaine fois. Merci de nous avoir accompagnés, chers auditeurs, pour cette première. On espère qu'elle aura été agréable pour vous. On rappelle les prochaines dates d'émission. On sera en direct le vendredi 8 novembre, à 19h. Et on se retrouvera en plus au cours du marathon des 30 ans de Radio Campus Orléans. Toute l'équipe de la radio tiendra l'antenne pendant 30 heures à cette occasion, à partir du samedi 16 novembre à midi. Vous retrouverez le Kawaii Campus Club à cette occasion. occasion le dimanche 17 novembre à 14h pour une émission exceptionnelle. Et maintenant, vous retrouvez votre émission Blockchain à 20h et Il est chelou ton son à 21h. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.